Chapitre 5. Joe Collins de la Ronde. 1. Trois semaines après le rêve du bonnet unique, trois silhouettes, deux grosses et une petite, émergèrent un jour d'un bosquet surélevé et se mirent à traverser lentement le grand champ à découvert qui descendait vers un autre pan de forêt en contrebas. L'une des grandes silhouettes portait l'autre sur un véhicule qui tenait plus de la luge que du travois. Otey fit des allers et retours surexcités de Roland à Susanna, comme montant une garde infaillible. Avec le froid et le régime exclusivement à base de viande de cerf, il avait la fourrure épaisse et brillante. La zone qu'ils parcouraient tous les trois devait être un pré à la belle saison, mais à cette époque le sol était enfoui sous 1,50 m de neige. Tirer l'engin de Susanna était devenu plus facile, car le terrain commençait enfin à descendre. Roland se prenait réellement à espérer que le pire était derrière eux, et la traversée des terres blanches n'avait pas été si terrible, jusqu'ici du moins. Il y avait du gibier à profusion. Du bois à profusion pour leur feu nocturne, et lors des quatre occasions où le temps avait mal tourné et où le blizzard s'était levé, ils s'étaient tout simplement terrés dans un trou en attendant que les orages aillent mourir sur les crêtes boisées qui pointaient vers le sud-est. Le temps avait fini par s'apaiser. Même si le plus fort du blizzard avait duré deux jours pleins, et en reprenant le sentier du rayon, ils avaient constaté qu'il était encore tombé 1 mètre de neige fraîche. Dans les espaces dégagés où le vent hurlant du nord-est avait eu tout loisir de se déchaîner, les rafales de neige balayaient la terre comme des vagues au large de l'océan. Elles avaient enseveli certains pins quasiment jusqu'à la cime. À l'issue de leur première journée dans les terres blanches, durant laquelle Roland avait bataillé pour tirer le taxi de Susanna, et alors il n'y avait pas plus de 20 cm de neige. La jeune femme comprit soudain qu'il pourrait mettre des mois à traverser ces crêtes boisées, à moins que Roland ne se dégote des après-ski. Aussi, la nuit suivante, s'était-elle relevée pour lui en confectionner une paire. Le processus fut long et difficile, un peu de chance et un peu de métier, comme le résuma Susanna. Mais à la troisième tentative, le pistolero proclama sa victoire. Elle en bâtit la structure avec des baguettes de bouleau souple qu'elle entoura de bandes de peau se chevauchant. Roland trouva que le résultat ressemblait à deux grandes larmes.
« Où as-tu appris à faire ça ?»
lui demanda-t-il au bout d'une journée avec ses nouvelles bottes aux pieds. Il constata une augmentation notoire de la distance parcourue maintenant qu'il les portait. C'en était même incroyable, surtout lorsqu'il maîtrisa une démarche chaloupée qui empêchait la neige de s'amonceler dans les interstices.
« À la télévision, » dit Susanna, « il y avait une émission, je la regardais quand j'étais petite. Ça s'appelait « Sergent Preston ». Le sergent Preston n'avait pas de bafou bafouilleux pour lui tenir compagnie, mais il avait son chien fidèle, King. » Bref, j'ai fermé les yeux et j'ai essayé de me rappeler à quoi ressemblaient les après-ski de ce type-là.
Du doigt, elle désigna les bottes de Roland.
C'est ce que j'ai pu faire de plus ressemblant.
Tu as fait du beau travail,
dit-il simplement, et la sincérité qu'elle entendit dans sa voix la fit frissonner de la tête aux pieds. Ce n'était pas forcément ce qu'elle attendait que Roland, ou n'importe quel autre homme d'ailleurs, lui fasse ressentir, mais le mal était fait. Elle se demanda si c'était de l'inné ou de l'acquis, et ne fut pas certaine d'avoir envie de savoir.
« Tout ira bien tant qu'elle ne tombera pas en morceaux, » admit-elle.
Ce qui avait mis un terme à sa première tentative.
« Je n'ai pas l'impression que les attaches se desserrent, » dit-il. « Elle s'étire peut-être un peu, mais c'est tout. »
Et tandis qu'il traversait les grands espaces à découvert, cette troisième paire de bottes tenait bon. Et parce qu'elle avait l'impression diffuse d'avoir apporté sa contribution, Susanna put laisser Roland tirer le pouce-pouce sans trop se sentir coupable. Elle se posait bien la question de temps à autre de savoir ce que faisait Mordred, et une nuit,
Une dizaine de jours après qu'ils eurent franchi la frontière neigeuse, elle demanda de but en blanc à Roland de lui dire ce qu'il savait. Ce qui la poussa à le faire, c'est d'entendre le pistolero proclamer qu'il n'y avait nul besoin de consulter sa montre, du moins pour le moment. Qu'ils pouvaient tous deux prendre une bonne nuit de 10 heures de sommeil, si c'était ce que réclamait leur corps. Othé les réveillerait si besoin était. Roland avait soupiré et fixé le feu pendant 1 minute entière, les bras lui saignant les genoux, les mains pendant entre les jambes. Elle en avait conclu qu'il n'avait aucune intention de lui répondre lorsqu'il avait pris la parole. Il suit toujours, mais avec de plus en plus de retard. Il lutte pour manger, il lutte pour nous rattraper, mais surtout, il lutte pour ne pas mourir de froid.
Pour ne pas mourir de froid ?
Susanna avait du mal à le croire avec tous ces arbres autour d'eux. Il n'a pas d'allumette et pas de semeta non plus. Je pense qu'une nuit, il y a quelque temps, je dirais, il est tombé sur un de nos feux et il restait des braises sous les cendres. Il en a emporté et il les a gardées quelques jours avec lui pour se faire un feu le soir. C'est ainsi que les hommes des cavernes transportaient le feu quand ils se déplaçaient. Du moins, c'est ce qu'on m'a dit. Susanna hocha la tête. Elle avait appris approximativement la même chose au lycée en sciences, même si le professeur avait avoué que la majeure partie de ce qu'il savait de l'âge de pierre tenait plus de la devinette et du tâtonnement que de la certitude scientifique. Elle se demanda également si ce que venait de lui raconter Roland tenait aussi de la devinette. Elle lui posa la question. « Ce n'est pas de la devinette, même si je ne peux pas l'expliquer. Si c'est le Shining, Susanna, ça n'a rien à voir avec ce que Jake avait. Je ne vois pas, je n'entends pas, je ne rêve même pas, encore que... Crois-tu qu'on puisse faire des rêves qu'on ne se rappelle pas au réveil ?»
Oui.
Elle songea à lui parler de sommeil paradoxal, des articles qu'elle avait lus sur le sujet dans le magazine Look, puis elle décida que c'était trop complexe. Elle se contenta de lui affirmer qu'elle était certaine que les gens rêvaient toutes les nuits et ne se rappelaient rien.
Alors peut-être que je le vois et que je l'entends en rêve. Tout ce que je sais, c'est qu'il bataille pour tenir le rythme. Il sait tellement peu de choses de ce monde que c'est déjà incroyable qu'il soit même encore en vie.
Tu as de la peine pour lui ?
Non, je ne peux pas me permettre la pitié, et toi non plus.
Mais à ces mots, il avait détourné le regard du sien, et elle se dit qu'il mentait. Peut-être ne voulait-il pas éprouver de la pitié pour Mordred, mais elle était certaine que c'était pourtant le cas, du moins un peu. Peut-être voulait-il espérer que Mordred mourrait à leur trousse. Et il y avait de grandes chances que ça se produise, ne serait-ce que par hypothermie. Mais Susanna pensait qu'il n'en était pas tout à fait capable. Ils avaient peut-être pris le cas de vitesse, mais force était de constater que les liens du sang demeuraient incontournables. Il y avait autre chose, cependant. Quelque chose de plus puissant que les liens du sang. Elle le savait pour le sentir battre en ce moment même dans sa tête, à la fois vivant et en sommeil. C'était la tour sombre. Elle pensait qu'ils en étaient à présent très proches. Elle n'avait aucune idée de ce qu'ils feraient contre son gardien fou quand ils arriveraient là-bas, s'ils devaient jamais y arriver. Mais elle se rendit compte qu'elle ne s'en souciait plus du tout. Pour le moment, tout ce qu'elle voulait, c'était la voir. L'idée d'y pénétrer était encore trop abstraite pour son imagination, mais la voir, oui, elle pouvait l'imaginer, et elle se disait que cette simple vision lui suffirait. 2. Ils se mirent à descendre lentement la vaste pente blanche, Othé trottinant au pied de Roland, faisant de temps à autre un petit crochet en arrière pour s'assurer que tout allait bien pour Susanna, puis retournant auprès de Roland. Des trous d'un bleu vif s'ouvraient parfois au-dessus d'eux. Roland savait que c'était là l'œuvre du rayon qui s'était remis au travail, repoussant continuellement la couche de nuages vers le sud-est. Hormis ces interférences, le ciel était blanc à perte de vue et avait à présent un air bas et plein qu'ils reconnaissaient désormais tous les deux. De la neige s'annonçait, et le pistolero avait comme l'intuition que cette tempête-là serait la pire de toutes celles qu'ils avaient eu à affronter. Le vent se levait, et l'humidité dont il était imprégné suffisait à engourdir le moindre centimètre de peau qu'il trouvait. Après 3 semaines de travaux de couture opiniâtre, la zone exposée se résumait à son front et au bout de son nez. Les rafales soulevaient de longues écharpes blanches et diaphanes. Elles glissaient à vive allure de part et d'autre des voyageurs pour descendre la pente comme des ballerines fantastiques à la silhouette changeante.
« C'est beau, n'est-ce pas ?»
fit Susanna dans son dos, sur un ton presque mélancolique. Roland de Gilead, bien piètre juge de la beauté, sauf une fois à la périphérie de Méris, émit un grognement. Il savait ce qui serait beau à ses yeux. Une cachette digne de ce nom lorsque la tempête les submergerait un peu plus qu'un simple bouquet d'arbres. Aussi eut-il du mal à en croire ses yeux lorsque le vent tomba net au milieu d'une rafale et que la neige s'immobilisa. Il lâcha la lanière de remorquage, se dégagea du harnachement et se rendit auprès de Susanna. Leur guna, à nouveau bien fournie, était ligotée sur la luge derrière elle. Il tomba sur un genou, près de la jeune femme. Habillé de peau de bête, des pieds à la tête, il avait plus l'air d'un yéti galeux que d'un homme.
« Qu'est-ce que tu dis de ça ?» demanda-t-il.
Le vent poussa une nouvelle rafale, plus forte que jamais, commençant par obscurcir la vision qu'il avait eue. Lorsqu'il s'apaisa, un trou s'ouvrit au-dessus d'eux et le soleil fit une percée furtive à travers les nuages, illuminant le champ enneigé de millions d'étincelles en diamants. Susanna se couvrit les yeux d'une main et scruta la pente. Elle y découvrit un T renversé creusé dans la neige. La barre du T, plus proche d'eux, mais distante d'encore au moins 3 kilomètres, était relativement courte, avec 60 mètres de part et d'autre de l'intersection. Le bras le plus long, cependant, était très long et s'étendait jusqu'à l'horizon et au-delà.
« Ce sont des routes !» s'exclama-t-elle. « Quelqu'un a creusé des routes en bas, Roland !»
Il hocha la tête.
« C'est ce que je pensais, mais je voulais te l'entendre dire. Je vois aussi autre chose. »«
Quoi ? Tu as la vue bien plus perçante que la mienne. »«
Quand on s'approchera un peu, tu verras mieux. »
Il fit mine de se relever et Susanna le secoua par la manche avec impatience.
« Ne joue pas à ce petit jeu avec moi. Qu'est-ce que c'est ? » ?»«
Dais-toi. » céda-t-il. « Je dirais qu'il y a des maisons en bas, peut-être même une ville. »«
Des gens ? C'est ce que tu dis ? Des gens ? » ?»«
Eh bien, on dirait qu'il y a de la fumée montant d'un des toits, bien que ce soit difficile à dire sur un ciel aussi blanc. »
Elle ne savait pas si elle avait envie ou non de voir du monde. Il était certain que ça compliquerait les choses.
« Roland, il va falloir qu'on soit très prudent. »
« Oui. » dit-il en retournant à son harnachement.
Avant de se sangler à nouveau, il prit le temps de réajuster son ceinturon, descendant le holster afin qu'il soit plus à portée de sa main gauche. Une heure plus tard, ils débouchèrent sur l'intersection de la route et de la bretelle. Elle était marquée par un remblai de neige d'au moins 3 mètres de haut, comme creusé par une sorte de charrue. Susanna aperçut des traces de chenilles, rappelant celles d'un bulldozer imprimé sur la neige tassée. De ce talus surgissait un poteau. Le panneau fixé au bout ne différait pas beaucoup de ceux qu'elle avait vus dans toutes sortes de villes, au carrefour des rues new-yorkaises, par exemple. Celui désignant la petite branche disait « La Donde ». Mais c'est l'autre qui transporta son cœur de joie. « Route de la Tour ». Disait le panneau. 3. À l'exception d'une seule, toutes les maisonnettes agglutinées autour de l'intersection étaient désertes. et bon nombre étaient à demi ensevelis, pliant et rompant sous le poids de la neige qui s'accumulait. L'une d'elles, cependant, située dans le dernier quart de la branche gauche de la ronde, était très différente des autres. On avait retiré du toit le plus gros de la neige susceptible de le faire céder, et un chemin avait été déblayé depuis la route jusqu'à la porte d'entrée. C'était de la cheminée de cette maisonnette vieillotte et entourée d'arbres que s'élevait un fin panache de fumée blanche. D'une fenêtre s'échappait également une lueur d'un jaune laiteux, mais c'est la fumée qui retint l'œil de Susanna. En ce qui la concernait, c'était le petit détail qui change tout. La seule question qu'elle se posait, c'était de savoir qui viendrait ouvrir la porte quand il frapperait. Serait-ce Hansel ou sa sœur Gretel? D'ailleurs, ces deux-là étaient-ils jumeaux? Est-ce que quelqu'un s'était un jour posé la question? Ou bien le petit chaperon rouge, aux boucles d'or, des moustaches coupables de bouillie autour de la bouche?
Peut-être qu'on ferait mieux de ne pas s'arrêter,
suggéra-t-elle, consciente de parler maintenant à voix quasiment inaudible, alors qu'il ne se trouvait encore que sur le talus de neige.
On fait comme si de rien n'était, grand merci.
D'un geste nerveux, elle désigna le panneau indiquant la route de la tour.
La voie est libre, Roland. Peut-être qu'on devrait la prendre.
Si on fait comme tu le suggères, penses-tu que Mordred en fera autant? Penses-tu qu'il se contentera de passer à côté et de laisser en paix quiconque vit ici? C'était là une question qui ne lui était même pas venue à l'esprit, et à laquelle la réponse était non, bien entendu. Si Mordred décidait qu'il pouvait tuer les habitants de cette maison, il le ferait. Pour se nourrir, si les dix habitants étaient comestibles, mais la nourriture n'était qu'une préoccupation secondaire. Les bois derrière eux regorgeaient de gibier, et même si Mordred s'était révélé incapable d'attraper son dîner tout seul, Susanna doutait que ça lui pose le moindre problème sous sa forme d'araignée. Ils avaient eux-mêmes laissé plus d'une fois les restes de leur repas dans les campements qu'ils quittaient. Non, c'est repu qu'il surgirait des plateaux enneigés. Repu, mais pas content. Pas content du tout. Et malheur à quiconque se trouverait alors sur son chemin.
D'un autre côté, se dit-elle,
sauf qu'il n'y avait pas d'autre côté. Et tout à coup, il fut trop tard. La porte d'entrée de la maison s'ouvrit et un vieil homme s'avança sur le seuil. Il portait des bottes, un jean et un lourd anorak au col doublé de fourrure. Ce dernier vêtement donna à Susanna l'impression d'avoir été acheté dans un surplus de l'armée de Greenwich Village. Le vieil homme avait les joues roses, le cliché du bon air de l'hiver, mais il boitait lourdement et devait s'appuyer sur le gros bâton qu'il tenait de la main gauche. De derrière sa maisonnette de conte de fées avec son plumet de fumée blanche s'éleva le hennissement perçant d'un cheval.
« Mais oui, insolente, je les vois !» s'écria le vieil homme en se tournant dans la direction de l'animal. « Il me reste au moins encore un bon œil, pas vrai ?»
Puis il pivota vers Roland, debout sur le rebord de neige, flanqué de Susanna et doté. Il leva son bâton en signe de bonjour, en un salut joyeux, sans aucune trace de peur. Roland leva la main en réponse.
« On dirait bien qu'on est parti pour une petite palabre, qu'on le veuille ou non, » glissa le pistolero.
« Je sais, »
répondit-elle. Puis, au bafouilleux,
« Ôté, tiens-toi bien maintenant, hein ?»
Ôté la considéra une seconde, puis le vieil homme sans émettre un son. En ce qui concernait les bonnes manières, il avait visiblement décidé de garder son opinion pour lui. La patte folle du vieillard était indéniablement très mal en point. « Encore un peu et on coupe », aurait dit Pop Moss Carver. Mais il s'en sortait plutôt bien avec sa canne, se déhanchant en une démarche bancale et sautillante que Susanna trouvait à la fois amusante et admirable. Alerte comme un grillon. Voilà une autre des nombreuses expressions de Pop Mose, qui aurait sans doute le mieux convenu à ce vieux bougre-là. Elle ne vit aucun signe de danger chez ce bonhomme à cheveux blancs. Il avait une longue chevelure de bébé qui pendait jusqu'aux épaules de son anorak, obligé de se traîner sur son bâton. Et tandis qu'il s'approchait, elle vit qu'un de ses yeux était recouvert d'une pellicule blanche, une cataracte à l'évidence. La pupille, encore vaguement visible et inerte, semblait fixée sur un point déterminé à leur gauche. L'autre, en revanche, ne lâchait pas les nouveaux venus, et c'est avec beaucoup d'intérêt que le maître des lieux les observait en remontant la ronde vers eux de son pas saccadé. Le cheval hennit de nouveau et le vieillard agita sauvagement son bâton vers le ciel blanc et bas.
« Tais-toi, boîte à foin, espèce d'usine à merde et de clapet à foutre. T'as donc jamais eu de la visite avant ça? T'es né dans une grange ou quoi ? Hé hé, parce que sinon, moi je suis un babouin à yeux bleus alors que ça n'existe pas comme bestiole. »
Rallant partit d'un éclat de rire sincère et les derniers vestiges d'appréhension de Susanna s'envolèrent. Dans la remise à l'arrière, c'était loin de pouvoir s'appeler une grange, la jument poussa un ultime hennissement et le vieillard secoua une nouvelle fois son gourdin, se mettant presque par terre dans l'élan de son mouvement. Sa démarche maladroite, mais néanmoins rapide, l'avait mené à mi-chemin de Rallant et Susanna. Il évita de justesse la mauvaise chute, fit un bond de côté en se servant du bâton comme appui, puis l'agita dans leur direction d'un air réjoui.
« Ah, il pistolero !»
s'écria l'homme. Ses poumons, du moins, avaient une santé admirable.
« Des pistoleros en pèlerinage vers la tour sombre, voilà ce que vous êtes, oui, là. Car est-ce que je ne vois pas là les gros fers à mains jaunes ? Et le rayon qui est revenu, tout beau et costaud, ça je le sais, et l'insolente aussi, fraîche comme une pouliche qu'elle est depuis Noël, ou ce que moi j'appelle Noël, parce que j'ai pas de calendrier et j'ai pas vu le Papa Noël. C'est pas que je m'en étonne, hein, parce que est-ce que j'ai été sage ? Jamais, jamais. « Les enfants sages, ça va au paradis, et tous mes amis à moi, ils sont de l'autre côté, à faire frire des chamallows dans le feu en sirotant un petit whisky Noza dans la tanière du diable. Oubliez ça, j'ai la langue collée au milieu et elle part dans tous les sens. Aïe là l'un, aïe là l'autre, et aïe là la petite boule de poil entre les deux. Un bafou bafouilleux, si on m'avait dit ça. » « Bon, de là, qu'est-ce que ça fait plaisir de vous voir. Mon nom, c'est Joe Collins. Joe Collins de la Ronde. Faut dire que je tourne pas très rond, moi-même. J'ai qu'un œil et une patte folle. Mais à votre service. »
Il avait atteint le remblai de neige marquant la fin de la route de la tour. Ou son début, selon le point de vue et le sens de la marche, se dit Susanna. Il leva les yeux vers eux, dont l'un vif comme celui d'un oiseau, et l'autre fixant les étendues blanches avec une fascination éteinte.
Que vos jours soient longs et vos nuits plaisantes. Et là, je dis ainsi, et ceux qui disent autre chose, ben ils sont pas là de toute manière. Alors qu'est-ce qu'on en a à faire de ce qu'ils disent, hein ?
Il tira de sa poche ce qui ressemblait à une boule de gomme et la lança en l'air. Ôtez la à pas sans peine en plein vol. Clac ! Et voilà le travail. Rallant et Susanna éclatèrent de rire, tous les deux cette fois-ci. C'était étrange de rire, mais c'était une sensation agréable, comme de tomber sur un objet auquel on tient, longtemps après avoir abandonné tout espoir de jamais le retrouver. Même Othé avait l'air de sourire, et si les cris du cheval le dérangeaient, il se remit à trompeter tandis que le dialogue s'amorçait entre Cy Collins et eux. Il n'en montra rien.
J'ai bien un million de questions à vous poser, les prévint Collins, mais je vais commencer par celle-ci. Comment diable vous allez faire pour descendre de ce talus ?
4. Il se trouva que Susanna réussit à glisser en se servant de leurs travois comme d'une luge. Elle choisit le point précis où l'extrémité nord-ouest de la ronde disparaissait sous la neige, parce que le remblai était un peu moins bombé à cet endroit. Le trajet fut bref, mais pas de tout repos.
Aux trois quarts de la descente, elle percuta un gros bloc de neige durci, bascula du travois et finit la traversée en deux soubresauts acrobatiques, le tout dans un fou rire incontrôlable. Le travois se retourna et il fit le coup de la tortue, si cela vous sied, propulsant leur guna tous azimuts. Roland et Othé bondirent derrière elle. Roland se pencha immédiatement vers la jeune femme, visiblement inquiet, et Othé lui renifla anxieusement le visage. Mais Susanna riait toujours. De même que l'homme au gourdin. Pop Mose aurait dit de son rire qu'il était aussi gai que le bon vieux pas qui aurait fêté ça entre amis.
« Tout va bien, Roland. J'ai pris des pelles bien pires sur mon tricycle, gamine. Tu peux me croire ?»«
Tout est bien qui finit bien. » conclut Joe Collins. Il lui lança un regard de son bon œil pour vérifier qu'elle n'avait effectivement rien de cassé, puis entreprit de ramasser les vivres éparpillés, se penchant laborieusement sur son bâton, ses fins cheveux blancs voletant en corolle autour de son visage rosi.
« Nenny, Nenny, » fit Roland en l'agrippant par le bras, « c'est à moi de le faire. Tu risques de tomber sur tes spignoles. »
En entendant ces mots, le vieillard partit d'un rire tonitruant, et Roland se joignit bien volontiers à lui. De derrière la maison, la jument donna de nouveau de la voix, comme pour protester contre toute cette bonne humeur.
« Tomber sur mes spignoles ! Ah, mon vieux, elle est bien bonne, celle-là ! J'ai déjà pas la moindre idée de ce que c'est, des spignoles, mais en v'là une bien bonne, pour sûr !»
D'un geste vigoureux, il épousta la neige du manteau de peau de Susanna, tandis que Roland ramassait leurs affaires et les entassait de nouveau sur leur traîneau de fortune. Othé lui prêta patte-forte, rapportant plusieurs paquets de viande entre ses mâchoires et les lâchant à l'arrière du travois.
« En voilà une bestiole finaude !»
fit Joe Collins d'un air admiratif.
« C'est un excellent compagnon de route, » confirma Susanna.
Elle était très heureuse de cette halte providentielle. Pour rien au monde, elle n'aurait voulu rater la bonne humeur de ce vieux bonhomme. Elle lui tendit sa main droite, bizarrement gantée.
« Je suis Susanna Dean, Susanna de New York, fille de Dan. »
Il prit sa main et la serra. Lui-même ne portait pas de gants, et bien qu'il eût les doigts tordus par l'arthrite, la poignée était ferme.
« New York, vraiment ! J'étais de là-bas autrefois, et d'Aclone, Omar et de San Francisco, fils d'Henri et de Flora, si ça vous importe. »«
Vous êtes du côté Amérique ?» demanda Susanna.
« Mon Dieu, oui, mais d'il y a bien bien long, de là, comme vous diriez. »
Son bon œil étincelait. Le mauvais continuait de fixer l'infini blanc avec le même manque flagrant d'intérêt. Il se tourna vers Roland.
« Et qui êtes-vous, mon ami? Car je vous appellerai mon ami comme je le ferai avec tout le monde, sauf si on me prouve que j'ai tort. Et dans ce cas-là, je leur fiche une raclée avec Bessie. C'est comme ça que j'appelle mon bâton. »
Roland souriait de toutes ses dents. Il ne pouvait s'en empêcher, remarqua Susanna.
« Roland des chaînes. » De Gilead, fils de Stephen.
Gilead ! Gilead !
L'œil valide de Collins s'arrondit de surprise.
Voilà un nom du passé, pas vrai ? Un nom comme on en trouve dans les livres. Par Saint-Pierre, tu dois être plus vieux que Dieu lui-même.
D'aucuns pourraient le dire, en effet,
acquiesça Roland, non seulement en souriant, mais avec chaleur.
« Et ce petit gars ? »
demanda-t-il en se baissant. Il sortit de sa poche deux autres boules de gomme, une rouge et une verte. Les couleurs de Noël, et Susanna ressentit de nouveau cette impression de déjà-vu. Elle balaya son esprit comme une aile, puis s'évanouit.
« C'est comment ton petit nom, beau petit bonhomme ? Comment qui t'appelle, quand c'est l'heure de rentrer ?»
Il ne parle plus. Bien qu'autrefois il était du genre bavard,
faillit compléter Susanna, mais le bafouilleux ne lui en laissa pas le temps.
Othé,
lança-t-il à haute et distincte voix, comme du temps de sa splendeur auprès de Jake.
Bon petit bonhomme,
fit Collins en lâchant les boules de gomme dans la gueule d'Othé.
Puis il tendit la même main tordue et l'animal posa la patte sur la paume du vieil homme. Ils se serrèrent la pogne. Belle rencontre que la leur au croisement de la ronde et de la route de la tour.
« Je veux bien être pendu, » dit Roland d'une petite voix.
« Est-ce qu'on ne le sera pas tous, finalement, rayon ou pas rayon ?»
fit remarquer Joe Collins en lâchant la patte dotée.
« Mais pas aujourd'hui. Maintenant, ce que je dis, c'est qu'on ferait mieux de rentrer à l'intérieur, où il fait chaud, pour palabrer autour d'une tasse de café. Parce que j'en ai, oui, là, ou un pichet de bière. » J'ai même ce que j'appelle du lait de poule, si ça vous sied. Ça me réussit plutôt bien, surtout avec une ch'tite goutte de rhum pour remonter le tout. Bah, qui sait? J'ai plus du tout le goût depuis au moins 5 ans. Cet air de Discordia, il m'a bousillé les papilles et le nez. Mais bon, qu'est-ce que vous en dites?
Fit-il le regard pétillant.
Je dirais que ça me paraît fichtrement bien, dit Susanna.
Elle avait rarement été aussi sincère. Il lui donna une claque joviale sur l'épaule.
« Une femme de qualité est une perle sans prix. Je sais pas si ça vient de Shakespeare, de la Bible, ou bien un mélange des... Bon de l'insolente, qu'est-ce que t'as fait de tes foutus yeux? Où est-ce que tu crois aller comme ça? Tu voulais dire bonjour à nos invités, c'est ça ?»
Sa voix avait pris les accents chantants et indignés qui sont l'apanage des gens qui vivent seuls, avec un ou deux animaux familiers. Son cheval avançait d'un pas maladroit vers eux, et Collins l'attrapa par le col, le flattant avec une affection un peu brute. Pourtant, Susanna ne croyait pas avoir jamais vu de sa vie quadrupède plus laid. Elle sentit un peu de sa bonne humeur s'éteindre à la vue de la créature. Insolente était aveugle. Pas seulement d'un œil, mais des deux, et maigre comme un épouvantail. Lorsqu'elle marchait, le mécanisme de ses os était tellement visible sous sa robe miteuse que Susanna s'attendait presque à en voir un ou deux percer la peau. L'espace d'une seconde, elle se remémora le couloir noir sous Château Discordia avec une clarté totalement cauchemardesque. Le bruit de glissement produit par cette chose qui les suivait, et les os, tous ces os. Collins dut déchiffrer quelque chose dans son expression, car lorsqu'il reprit la parole, ce fut presque sur la défensive.
« Elle est pas bien belle, je sais, mais quand vous arriverez à son âge, je pense pas que vous gagnerez beaucoup de concours de beauté non plus. »
Sur ces paroles, il flatta l'encolure usée et courbée de la bête, puis agrippa sa maigre crinière assez fort pour l'arracher par la racine, bien qu'insolente ne parut pas souffrir le moins du monde, et la fit pivoter sur la route pour la placer face à la maison. Et c'est alors que les premiers flocons de la tempête se mirent à descendre.
« Allez, insolente, espèce de vieille qui boite et clapée à foutre, espèce de canasson lépreux à quatre pattes !» Tu sens donc pas la neige dans l'air? Parce que moi si, et ça fait un bail que j'ai plus de nez. »
Il se tourna vers Roland et Susanna.
« J'espère que vous allez aimer ma cuisine, pour sûr, parce qu'il me semble bien qu'on est parti pour 3 jours. » « Si fait, au moins 3 avant que la lune du démon montre à nouveau sa tête. Mais c'est une heureuse rencontre que la nôtre, oui là, j'en jurerai, par ma montre et mon billet. » « Je voudrais seulement pas que vous me jugiez à mon cheval plutôt qu'à ma chevalerie, hein ?»«
Il vaudrait mieux, en effet, » se dit Susanna en frissonnant légèrement.
Le vieillard s'était retourné, mais Roland adressa à la jeune femme un regard interrogateur. Elle secoua la tête en souriant comme pour lui dire
« Rien, rien. »
Sauf que si, il y avait quelque chose. Mais elle n'allait pas dire au pistolero qu'une vieille bourrique avec des cataractes sur les yeux et les côtes saillantes avait suffi à la rendre toute flagada. Roland ne l'avait jamais traitée de cruche, et bon sang, elle n'avait pas l'intention de lui donner l'occasion de commencer maintenant. Comme lisant dans ses pensées, la vieille Rosse tourna la tête et découvrit les dents à l'intention de la jeune femme. Les yeux plantés dans sa tête osseuse étaient 2 trous aveugles bordés de pus, surmontant un rictus épouvantable. Elle émit un hennissement aigre comme pour dire
Tu peux bien penser ce que tu veux, ma Merlette. Je serai encore là bien longtemps après que tu auras passé l'arme à gauche et rencontré la mort. »
Le vent se fit plus rageur, leur fouettant le visage de flocons, murmurant dans les pins pliant sous le poids de la neige et mugissant sous l'avant-toit de la maisonnette de Collins. Il parut faiblir un instant, puis se releva de plus belle en un hurlement bref et triste qui paraissait presque humain.